Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Abdoul Fattah Tiemtori.
Oméga bonjour, à la une de l'actualité, 137 morts en Ukraine en une journée d'offensive russe contre le pays. Le président Volodymyr Zelensky regrette que l'Ukraine soit laissée seule face à l'armée russe. L'Union africaine, elle, a appelé à l'instauration immédiate d'un cessez-le-feu. Au Burkina, la petite Karine a regagné Koupéla hier avec ses parents. Elle a pu reprendre le chemin de l'école aujourd'hui après sa première nuit passée chez elle depuis samedi dernier. Attaque d'Inata, le parquet militaire a ouvert une enquête contre X, entre autres pour abstention de porter assistance à une personne en péril. Des gendarmes ont déjà été entendus selon le procureur. Et avec notre invité de la rédaction, il est question de sécurité. Le chef coutumier de Thiou nous parle de la situation dans son village, vidé à plus de 90% de ses habitants. La faute à des hommes armés non identifiés que Djibril Diallo désigne comme des rebelles. Madame, messieurs, voici pour la une de ce journal. Merci d'avoir choisi Oméga pour vous informer. Nous débutons ce journal hors du Burkina. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a déjà fait 137 morts et 316 blessés. Bilan d'une journée d'offensive russe en Ukraine dressée par le président Volodymyr Zelensky hier soir. Dans un message vidéo, il a regretté que son pays se retrouve laissé seul face à l'armée russe après que l'OTAN a indiqué qu'elle n'enverra pas de troupes combattre aux côtés de Kiev. Faisons le point avec Gilles Dasda.
Qui est prêt à combattre avec nous? Je ne vois personne. Qui est prêt à donner à l'Ukraine la garantie d'une adhésion à l'OTAN? Tout le monde a peur. En ces termes, le président ukrainien Volodymyr Zelensky exprime son regret d'être abandonné face à l'armée russe qui s'est déjà signalée dans la capitale Kiev. À l'aube ce vendredi, deux fortes explosions ont retenti dans le centre de la ville. Selon le maire, trois personnes ont été blessées, dont une grièvement. C'est une guerre d'agression. L'Ukraine se défendra et gagnera. Le monde peut et doit arrêter Poutine, a tweeté le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba. Pour lui, il est temps d'agir maintenant. Nous sommes aux côtés du peuple ukrainien en ce moment terrible. L'OTAN fera tout ce qu'il faut pour protéger et défendre tous les alliés, a réagi le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. En attendant, Kiev a annoncé la mobilisation générale et la distribution d'armes légères aux civils volontaires et aux vétérans pour soutenir l'armée. La loi martiale a été proclamée et les relations diplomatiques avec Moscou ont été rompues. Au niveau des réactions, le Conseil de sécurité de l'ONU va statuer sur une résolution condamnant l'invasion russe. Les sanctions portées à la Russie seront à la hauteur de l'agression, a menacé Emmanuel Macron, qui a eu un échange téléphonique avec Vladimir Poutine. Un échange téléphonique sérieux et franc, selon le Kremlin. De son côté, l'Union africaine s'est dite extrêmement préoccupée face à la situation qu'elle juge très grave et dangereuse. L'organisation appelle à l'instauration immédiate d'un cessez-le-feu et à l'ouverture de négociations politiques sous l'égide des Nations Unies afin de préserver le monde des conséquences d'un conflit planétaire.
Ce que Moscou appelle une opération militaire a été annoncé tôt hier par Vladimir Poutine dans un message vidéo. Il a expliqué que ces événements ne sont pas liés à la volonté de porter atteinte aux intérêts de l'Ukraine et du peuple ukrainien, mais plutôt à la nécessité de protéger la Russie elle-même contre ceux qui ont pris l'Ukraine en otage et tentent de l'utiliser contre son pays. Nos actions relèvent de l'autodéfense, a assuré Poutine. Il a appelé les Ukrainiens à la coopération pour, je cite, tourner au plus vite cette page tragique et avancer ensemble. Que comprendre de cette situation entre la Russie, l'Ukraine et l'OTAN? Nous avons posé la question au professeur Ousseini Ili, enseignant-chercheur en géopolitique à l'université Thomas Sankara Ouagadougou. Je vous propose de l'écouter.
Les causes, je vois principalement d'abord une cause géopolitique dans la mesure où la Russie et Poutine essaient de recouvrer sa place jadis occupée dans les relations internationales de grande puissance, puisque vous savez qu'à la suite de l'effondrement de l'URSS, l'ex-Union des républiques socialistes et soviétiques, la Russie s'était un peu éclipsée de la scène internationale. Et que pour Vladimir Poutine, cela est inacceptable, il fallait faire coûte que coûte pour retrouver cette place qui est justement menacée par les Occidentaux à travers l'extension notamment de l'OTAN
en Europe de l'Est jusqu'à l'Ukraine, qui était dans les viseurs. Donc cela a amené justement la Russie, et notamment Vladimir Poutine, à vouloir marquer une ligne rouge, c'est-à-dire que maintenir les Occidentaux loin de ses portes et étendre son influence dans son voisinage immédiat. Alors la seconde raison qui a été invoquée par Poutine, à savoir qu'il y aurait un génocide qui est en train d'être commis dans le Donbass, une région ukrainienne qui est voisine à la Russie et qui est une région séparatiste, soutenue d'ailleurs par Moscou. Et donc l'intervention est justifiée, d'après lui, pour protéger cette population qui est menacée par l'Ukraine.
Et le professeur Ousseini Ili s'exprime aussi sur les conséquences des actions en cours. Pour lui, les sanctions annoncées contre la Russie pourraient être tout simplement sans effet.
Le monde est aujourd'hui ouvert. Il n'y a pas que l'Occident qui constitue aujourd'hui le centre du monde. Il y a l'Asie qui est là, notamment la Chine. Et donc les Russes, étant en bon terme avec ce pays-là, arrivent à compenser plus ou moins les pertes qui sont occasionnées par les Occidentaux. Et en plus de cela, la Russie est un grand pays qui dispose d'énormes ressources naturelles et également une puissance technologique et scientifique. Donc, ce qui fait qu'elle arrive à s'en sortir plus ou moins. Cela ne veut pas dire que les sanctions n'ont pas de conséquences. Elles n'ont pas d'impact. Ces sanctions ont un impact, mais ces impacts-là restent pour l'instant limités. Cette annexion de la Crimée avait été suivie de sanctions économiques. Mais l'annexion de la Crimée date de 2014. La Crimée n'a jamais été rétrocédée à l'Ukraine. Et si aujourd'hui la Russie ose encore intervenir carrément en Ukraine, c'est que ces sanctions-là n'ont pas du tout fonctionné. Donc c'est clair qu'il y a eu des impacts, mais ces impacts restent assez limités.
Le professeur Ousseini Ili a été joint au téléphone par Asma Odao. Je rappelle qu'il est enseignant, chercheur en géopolitique à l'université Thomas Sankara de Ouagadougou. L'actualité nationale maintenant, la petite Karine a passé sa première nuit chez elle depuis 5 jours d'absence. Elle avait été enlevée samedi dernier alors qu'elle jouait dans la rue. De nombreux Burkinabés ont été touchés par la disparition de la fillette. La solidarité s'est mise en place sur les réseaux sociaux notamment. Karine a finalement été retrouvée mercredi à Saint-Aba, près de Ouagadougou. Hier, dans la soirée, elle a pu rejoindre Koupéla avec ses parents. Selon Valérie Guéret, notre envoyée spéciale sur place, le secteur 1 de Koupéla était en fête. Nous l'avons jointe ce matin au téléphone. Écoutez.
La fillette de 4 ans a enfin eu l'occasion de retrouver les siens, mais aussi son jouet préféré, sa poupée qu'elle appelle Angela et qu'elle a pu serrer très fort contre elle. Le retour de Karine a été marqué par une forte présence de voisins, de connaissances ou même de simples habitants de Koupéla. La joie était perceptible au secteur 1 de la ville. Tout le quartier était bondé de monde et pour beaucoup, c'est une action de grâce au Seigneur d'avoir permis de retrouver Karine. L'émotion était présente chez les parents de la fillette. Le père nous a confié qu'il passait ses journées et ses nuits à la chercher partout, jusqu'à Mokdedo dans le Ganzougou. Celle qui a enlevé l'enfant avait déjà enlevé une autre à Mokdedo, a-t-il relevé. Sur les conditions dans lesquelles Karine a été retrouvée, il est moins bavard. Quant à la mère, elle raconte que la petite semble n'avoir pas été maltraitée. Karine lui aurait confié qu'elle était avec une dame qui lui donnait à manger et qui lui a fait une nouvelle coiffure. Elle était également avec une autre petite fille, nous rapporte la mère de Karine sans autre précision. L'enquête de la gendarmerie nous en dira certainement davantage. En attendant, Koupéla est comblée d'avoir retrouvé la petite Karine.
Merci à Valérie Guéret depuis Koupéla et avec elle, on apprend que Karine a déjà pu reprendre le chemin de l'école. Elle a été accueillie en liesse par ses camarades et ses enseignants ce vendredi matin à Koupéla. Dans la suite de l'actualité, attaque d'Inata, le parquet du tribunal militaire annonce dans un communiqué l'ouverture d'une enquête contre X. Les poursuites engagées depuis le 11 janvier dernier concernent les infractions de mise en danger de la personne d'autrui. Abstention de porter assistance à une personne en péril, refus d'obéissance et toute autre infraction selon le parquet militaire. Le communiqué indique que le dossier est confié à un juge d'instruction qui a déjà auditionné plusieurs gendarmes. L'enquête se poursuit pour déterminer les responsables d'éventuels dysfonctionnements qui ont conduit à la mort de 57 personnes, dont 53 gendarmes, dans l'attaque du 14 novembre dernier par des hommes armés non identifiés. Pour le dossier concernant un présumé projet de coup d'État attentat impliquant le lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana et plusieurs autres militaires et civils. Le parquet a assuré dans le même communiqué que l'enquête se poursuit. Les prévenus sont poursuivis pour complot contre la sûreté de l'État, détournement de biens publics, faux et usage de faux, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux. La justice militaire qui a désormais un nouveau directeur, le magistrat lieutenant-colonel François Yameougo, nommé par décret du 21 février dernier. Le colonel Vincent de Paul Sidenson Ouedraogo, lui, est désormais chef d'état-major de l'armée de l'air, secondé par le lieutenant-colonel Ibrahim Sakura. Le nouveau directeur central de l'intendance militaire est l'intendant-colonel Joanny Blaise Onadja et le lieutenant-colonel Batio Berekoho est nommé directeur central du génie militaire par le président du Faso. Polari Damiba, dans la poursuite de ses concertations engagées depuis le coup d'État du 24 janvier dernier, a rencontré des leaders religieux et coutumiers, ainsi que des notabilités des régions les plus touchées par le terrorisme. C'était hier, il leur a exposé la vision du MPSR et a demandé leur contribution au projet de refondation de la nation annoncé par le MPSR. Pour ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, Polari Damiba a laissé entendre que le rôle de ses leaders est décisif et qu'il est nécessaire d'envisager d'autres formes d'action qui peuvent compléter l'action militaire sur le terrain. Pendant ce temps, des membres du MPSR étaient à Gbomblora en compagnie de représentants du ministère en charge des mines. Ils sont allés témoigner leur solidarité aux familles des victimes de l'explosion survenue il y a 3 jours. La délégation est allée constater de visu l'ampleur des dégâts et apporter du réconfort aux blessés. La délégation a également apporté un soutien financier aux familles éplorées et au centre hospitalier régional de Gawa pour la prise en charge des blessés. À présent, l'éditorial de Radio Omega et il est consacré à la crise à la Fédération Burkinabé de football. L'édito est signé Ouezin Louis-Houlon.
C'est un feuilleton à rebondissement. La crise à la Fédération Burkinabé de football. Lazare Bansé, opposé à une partie du comité exécutif, décidé à ne pas accepter du patron de la fêtière de foot burkinabé, plie sans rompre. Alors que sa décision de suspendre les 4 membres du comité exécutif a été jugée nulle et de nul effet et invalidée par conséquent le 17 décembre dernier par la commission d'appel des litiges de la fédération, la nonchalance de Lazare Bansé à les réintégrer a poussé les bannis du staff de la Fédé à saisir le juge des référés du tribunal de grande instance de Ouagadougou qui a immédiatement ordonné leur réintégration et leur convocation à la réunion stratégique du comité du 21 février dernier où devrait se décider entre autres le sort de Kamou Malo. Une décision exécutée couteau sous la gorge, par Lazare Bansé puisque la décision du juge est assortie d'astreinte de 5 millions de francs CFA par heure de retard. Alors que tout semblait reprendre, le président de la Fédé va se lancer dans un virage à 90 degrés, prenant à contre-pied tous ceux qui avaient commencé à applaudir parce qu'ils voyaient une lueur de fumée blanche pointée pour annoncer le recrutement d'entraîneurs intérimaires, énonçant dans la foulée les conditions de recrutement de tout nouvel entraîneur, avec la précision que Kamou Malo peut postuler s'il le veut. C'est à croire que la paix des braves à la Fédération Burkinabé de football n'est pas pour demain et le monde du foot qui retient naturellement son souffle. Surtout après une bien honorable prestation des étalons assortie d'un classement de 4e meilleure équipe de la dernière Coupe d'Afrique des Nations au jeu de fin de corps. Des alliances où chaque parti se bat pour prendre le contrôle du comité exécutif avec au moins 12 alliés, Lazare Bansé dans une pichenette a dribblé ses adversaires en publiant mercredi dernier une liste des ligues acquises à sa cause. L'orage qui se prépare au siège de la Fédération Burkinabé de football, commande une anticipation car c'est une grosse déchirure qui va faire reculer notre football et qui est en gestation. En nommant des entraîneurs intérimaires, il met définitivement au vent Kamou Malo dans un petit pont assorti d'une frappe sèche, réaffirmant sa volonté de tourner la page Malo. Et comme si tout cela ne suffisait pas, la sortie médiatique de Drissa Traoré, dit saboteur, viendra illustrer toute la profondeur de la crise, parlant de ses grades à la police nationale et de ses diplômes d'entraîneur. Cette crise-là est une abîme pour les acteurs du foot burkinabé et qui court le risque de diviser entraîneurs, dirigeants, voire joueurs. Et je touche du bois. Il faut craindre que dans ce duel hors gazon, la FIFA n'administre finalement une sanction à la Fédération burkinabé de football en la suspendant pour mettre en place un comité de normalisation comme c'est le cas actuellement en Côte d'Ivoire depuis 2 ans et le Mali il y a de cela quelques années. Pourquoi se détester tant? Pourquoi une telle division? Le football burkinabé a besoin de vous tous. Saboteur, l'histoire retiendra que tu as été le premier entraîneur national à amener les étalons en phase finale de la CAN. Sita Sangaré est le premier président de fédération à jouer une finale de CAN. L'unique à jouer 2 demi-finales et 2 matchs de classement. Kamou Malo a été le premier entraîneur national burkinabé à franchir un premier tour de Coupe d'Afrique des Nations. Tu y es le premier à jouer une demi-finale et match de classement d'une Coupe d'Afrique des Nations.
Les quotidiens de ce vendredi dénoncent le manque de résultats des nouvelles autorités militaires sur le terrain de la lutte contre le terrorisme. Ils dressent également le portrait robot de la transition qui s'annonce au Burkina. La revue de presse de ce jour est assurée par Brigitte Yoda.
La plupart des quotidiens du jour commentent les premiers pas des nouvelles autorités au Burkina et la transition qui se dessine. 1 mois après la prise de pouvoir par le MPSR, le quotidien s'inquiète et dénonce. Au lieu de s'attaquer, comme promis, au premier mot et à la première priorité, que constitue la lutte contre le terrorisme, le chef de l'État et ses compagnons se sont lancés dans une course à la légalisation de leur pouvoir. Ceci en tordant littéralement le cou à la Constitution, à travers notamment la dévolution des fonctions de président du Faso à Paul-Henri Damiba, légalisant du même coup le coup d'État, comme moyen légal d'accession au pouvoir d'État, poursuit le journal. Pour le quotidien, les nouveaux dirigeants sont plus préoccupés à s'auto-gratifier à travers des nominations à des postes stratégiques au sein d'une armée, alors qu'à Djibo, Toussiana, Bitou, Titao, Tchou, Yondé, Bougui, Namougou, des Burkinabés sont tués, malmenés, sans que cela n'émeuve outre mesure, s'indigne notre confrère. Malgré tout, le quotidien veut garder espoir. Espérons que la lutte contre le terrorisme va démarrer afin que la longue et sinueuse marche pour la récupération des territoires perdus et le retour de la quiétude au Burkina commence. L'Express du Faso et Aujourd'hui au Faso, pour leur part, épiloguent et font des conjonctures de la transition burkinabé après la remise le 23 février dernier du rapport de la commission technique d'élaboration de la charte de la transition. Des sources bien introduites, les nouveaux maîtres du Burkina Faso se seraient fixés un délai de 2 ans pour pacifier le pays et édicter les moules dans lesquels le pays va évoluer pour les prochaines années, relate Aujourd'hui au Faso. En ce qui concerne le CNT, notre confrère pense que 50 députés serait un nombre raisonnable, mais que la proposition de leur octroyer un statut de bénévole pourrait poser problème, même si cela peut dissuader de nombreux candidats farfelus. Selon d'autres observateurs, le danger de ce bénévolat pourrait nous amener à nous retrouver avec des scientistes qui se contenteront du service minimum, caricature Aujourd'hui au Faso. Quant à la durée de la transition qui pourrait être comprise entre 24 et 30 mois, l'Express du Faso pense qu'elle ne peut pas être figée si, entre-temps, les Burkinabés, dans un élan patriotique, réussissent à mettre fin au terrorisme, à ramener dans leur terroir tous ceux qui, du fait de l'insécurité et du terrorisme, les avaient fuis. Ainsi, la transition peut être de courte durée si la majorité des Burkinabés acceptent de s'inscrire dans la dynamique de refondation voulue par les autorités de la transition, ajoute le journal édité à Bobo Dioulasso, qui pense qu'il n'y a rien d'impossible dans ce qui est contenu dans le rapport, non encore rendu public, de la commission technique.
L'invité du jour. L'invité du jour.
Avec notre invité du jour, il est question de sécurité. Le chef coutumier de Tchou nous parle de la situation dans son village et de la situation sécuritaire au Burkina. Il est interrogé par Brigitte Yoda.
Bonjour chef Djibril Diallo.
Bonjour.
Vous faites partie de ces notables religieux et personnes ressources qui ont été approchés par les nouvelles autorités. Peut-on savoir, si ce n'est indiscret, quel était l'objet de la rencontre?
Moi-même, je n'ai pas été à la rencontre, mais j'ai envoyé des gens me représenter. La rencontre qu'il y a aujourd'hui au Burkina, c'est trouver une solution pour la sécurité et puis les problèmes économiques et les problèmes de santé qu'il y a dans ce pays. Quand une autorité arrive, on commence toujours par les problèmes qu'on a, comment trouver une solution.
Justement, parlez-nous de votre commune Thiou dans le Yatenga, région du Nord. Quelle est la situation au plan social, sanitaire, économique et surtout sécuritaire?
Je n'aurais peut-être pas peur de vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, les deux communes les plus souffrantes au Burkina, c'est Thiou et Gibo. Je viens de recevoir plus de 10 appels. Tout le village a quitté Thiou. Chez moi, il y avait une trentaine de personnes. Il ne reste que 5 personnes dans la cour. Et c'est la même chose à Gibo. Donc à Thiou, il y a vraiment des problèmes. Non seulement il y a des problèmes de sécurité, les rebelles ont demandé à ce qu'on quitte la commune. La pluviométrie n'a pas été bonne et tout le monde est hors pair. Il y a des problèmes également parce que notre voie, qui était une voie nationale 2 qui marchait, ne marche plus. C'est-à-dire Thiou Koro, le Mali. Donc on a vraiment des problèmes là-bas.
Vous avez parlé de rebelles qui vous ont intimé lors de quitter le village. Est-ce qu'on a une idée de l'identité de ces rebelles-là? D'aucuns parlent de personnes d'hommes armés non identifiés. Il y a certains qui disent que ce sont des Burkinabés qui attaquent leurs frères Burkinabés. Quel est votre avis sur la question?
Bon, forcément, il y a des gens non identifiés, mais il y a certaines personnes qu'on connaît. Moi, personnellement, j'ai eu à conduire une délégation de la commune de Thiou 3 fois pour rencontrer certains responsables rebelles. On avait discuté et tout commençait à aller. Mais depuis un certain temps, je suis malade et je suis installé à Ouaga. Donc, les démarches sont reparties à zéro.
Vous avez aussi dit que votre commune Thiou s'est vidée de ses habitants, qu'il ne restait plus que 5 personnes.
Dans ma cour à moi.
Dans votre cour?
Dans le secteur 1, il reste 7 personnes, dont 5 chez moi. Et 2 personnes âgées dans le reste de la commune.
Et avant que la crise sécuritaire prenne cette ampleur, est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre de personnes qu'il y avait dans votre commune?
Dans notre commune, nous étions 48 000 habitants, constitués de Peul, de Mossi, de Dogon et de Kalensé. Les Kalensé, c'est une ethnie qui n'existe que dans la région de Thiou. Et tout le monde s'entendait bien. Bon, il y a certaines personnes qui composent des castes, comme les forgerons, les griots et les rimaïbés. Mais tout le monde s'entendait bien avant qu'il n'y ait ces problèmes-là.
De façon générale, de 48 000, on est passé en 2022 à combien?
Aujourd'hui?
Oui.
Il doit y avoir au moins 2/3 de la population qui est partie. Mais la ville la plus touchée, c'est la ville de Thiou même. Les autres villages sont touchés, mais pas autant que Thiou. Thiou, au moins 90%. Ou 95% de sa population est partie.
Et toutes ces personnes qui ont fui, elles sont allées où?
D'autres sont allées en brousse. Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui est rebelle en brousse. D'autres n'ont pas de solution. Puisque entre Thiou et Ouaïga, il n'y a pas un véhicule aujourd'hui. Et la moitié est venue à Ouaïga. Donc d'autres sont allées en brousse. On peut les confondre aux rebelles, mais c'est par contrainte. Et d'autres sont venus à Ouaïga.
Et selon votre représentant qui a rencontré les nouvelles autorités, notamment le président Paul-Henri Damiba, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire pour ramener un peu cette sécurité, un peu cette sérénité au niveau de la commune de Thiou?
Chacun a donné son point de vue, mais quant à moi, mon point de vue là, il faut utiliser 3 stratégies. Il faut frapper les rebelles pour qu'ils sachent. Et chez les peuples, il y a un proverbe qui dit que quand ils dansent avec un aveugle, il faut le piétiner pour qu'ils sachent qu'il y a quelqu'un. Il faut les frapper, il faut discuter avec eux, et puis il faut essayer à ramener les populations dans leur point d'origine. C'est ces 3 stratégies-là que moi je vois.
Et comment faire pour les frapper quand on sait qu'il y en a qui sont avec eux par contrainte, on ne sait pas faire la distinction entre qui et qui? Comment est-ce qu'on va frapper?
C'est pourquoi on parle de discussion. Comment essayer de dire à ceux qui ne sont pas rebelles de revenir? Ceux qui sont rebelles, ils peuvent rester là-bas. Et là, on pourra frapper. Il faut être sûr et certain que ce n'est pas tout le monde qui est rebelle là-bas. Mais comment les faire revenir? C'est maintenant, il faut réfléchir.
C'est peut-être trop tôt, mais est-ce que vous avez l'impression qu'avec l'arrivée des nouvelles autorités, les populations peuvent garder espoir que la situation va s'améliorer?
Il y a espoir par rapport à ce qu'ils nous ont dit depuis qu'ils sont arrivés. Il y a espoir parce qu'ils sont des militaires. Peut-être qu'ils vont donner à leurs collègues qui sont en brousse les moyens de faire la guerre. Donc, ça veut dire, avec conclusion, il y a espoir qu'il y aura une solution à ce problème-là.
C'est tout le mal qu'on souhaite. Merci, chef.
Merci.
Et c'est la fin de ce journal réalisé par Boureima Maïga. Je suis Abdoul Fattah Tiemtouré. Je vous souhaite un excellent après-midi à l'écoute de Radio Omega.
Radio Omega, l'info en direct.